Vous écoutez On lit pour vous.
De grâce, soyez optimistes et trompez-vous. Un texte de Francis Veil, paru le 26 janvier 2024 dans la presse. Tous les vendredis, un décideur se dévoile dans notre section Affaires. Cette semaine, le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, répond à nos questions. Quel conseil êtes-vous heureux d'avoir ignoré? Celui de massagir en vieillissant, de penser petit, d'être pragmatique. Si on ne vise pas la lune, on ne fera jamais de grandes choses. À travers les événements qui nous affectent, qu'il s'agisse des changements climatiques, économiques ou sociaux, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Il y a au Québec un peuple de grands bâtisseurs. Il faut trouver les voies nécessaires et être optimiste, c'est fondamental, malgré les défis qui sont grands. Un bon patron, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître les bons employés et qui leur donne la latitude et les conditions pour performer, qui voit le meilleur d'eux-mêmes et leur fait confiance. Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous-même? Que l'erreur n'est pas définitive, fatale. Jeune, on a l'impression que nos décisions sont cristallisées dans la pierre. La vie, ce sont des chemins qui se recoupent, sur lesquels on peut reculer, avancer, tomber, se relever. L'erreur n'est pas définitive. Trop souvent, on a peur de l'erreur. Et en politique, je dis aux jeunes, « De grâce, trompez-vous, cette richesse dans vos bagages vous permettra d'acquérir une expérience et de réussir. » Qui admirez-vous parmi les décideurs? Jacinda Ardern, ex-première ministre de la Nouvelle-Zélande. Elle a amené des choses très intéressantes du point de vue économique et social et s'est démarquée pendant la pandémie. Elle a eu le courage de faire un rapprochement avec les nations aborigènes. Parenthèse, elle a formé un gouvernement composé à 25% d'élus maoris. Elle a aussi interdit les armes semi-automatiques et lancé un programme de rachat d'armes après la tuerie de Christchurch qui a fait 51 morts en 2019. Fin de parenthèse. Quelle est votre plus belle erreur? D'avoir étudié en philosophie. Parenthèse, il a obtenu l'équivalent d'une majeure de 60 crédits en philosophie à l'Université Laval. Fin de parenthèse. Tout le monde me disait que ça ne servirait à rien. Je savais que je ne travaillerais pas là-dedans. Je voulais juste réfléchir, bâtir ma capacité à voir les enjeux. Je ne savais pas si je ferais de la politique, mais j'ai toujours aimé la politique, vu la politique comme un lieu extraordinaire pour transformer les communautés, faire une différence. Comment vous débranchez-vous? En écoutant de la musique avec mes écouteurs. J'adore la musique et je suis éclectique, écoutant du rap ou de la musique classique, mais aussi beaucoup de Québécois, comme Ingrid Saint-Pierre, Émile Proucloutier, les Cowboys Fringants, Leonard Cohen. Quand j'écoute de la musique, je ne prends pas mes textos et mes courriels. Il est indispensable de se débrancher. Quel livre avez-vous l'habitude de recommander? Le livre « Quand je ne dis rien, je pense encore » de Camille Ridman-Prudhomme. La poésie fait rêver et elle est très utile dans mon environnement. Acheter, conserver, vendre. De quoi voudriez-vous plus, autant et moins dans votre milieu de travail? Plus, multiplier les moments en équipe. Bâtir en équipe, c'est extraordinaire, c'est plus riche et plus fort. Conserver, mon temps de travail, je ne peux en mettre plus, je mets déjà toutes mes tripes. Vendre, c'est la tendance à la chicane dans une communauté et à ne pas se rallier quand une décision est prise. Quelle activité physique faites-vous? Je me suis inscrite au pentathlon des neiges à Québec pour la première fois. Les épreuves commencent le 17 février. Les 5 épreuves sont le vélo, la raquette, le ski de fond, le patin et la course à pied. Mais mon sport préféré est le vélo, sauf que ça prend plus de temps. J'ai fait 8000 km de vélo l'an dernier, dont la moitié sur ma base d'entraînement avec l'application Zwift, et je cours habituellement 1300 km par année. Quelles sont votre meilleure et votre pire habitude? La meilleure, c'est le sport, et de savoir m'entourer. J'ai de bons amis qui font une différence. Ma pire habitude, c'est mon incapacité à résister à un sac de chips. Incapable. Qui est Bruno Marchand? Depuis 2021, Bruno Marchand est maire de la ville de Québec. Il a récemment annoncé qu'il se représenterait en 2025. Il a aussi été élu président de l'Organisation des villes du patrimoine mondial en septembre 2022. De 2014 à 2021, il a été PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Auparavant, il a travaillé à l'Association québécoise de prévention du suicide, 2008 à 2014. Il détient un diplôme en philosophie de l'Université Laval, 1995, et une technique en travail social du Cégep de Sainte-Foy, 1998. De plus, il a suivi une formation en leadership de l'Ivy Business School de l'Université Western en Ontario. Il est né et a grandi à Limoilou. Sportif aguerri, il parcourt en moyenne 8 000 à 10 000 km de vélo par année et a gravi certains des plus hauts cols des Alpes. C'était « De grâce, soyez optimistes et trompez-vous », un texte de Francis Vaille paru le 26 janvier 2024 dans la presse.
La production de miel d'ici en chute libre, un texte de Daphné Cameron, paru le 1er février 2024 dans la presse. L'année 2022 a été catastrophique pour les apiculteurs du Québec. Le nombre de colonies s'est effondré en raison de ravages causés par un parasite destructeur. Résultat, la production de miel d'ici a chuté de près de 35%, montre une étude qui vient d'être publiée par l'Institut de la statistique du Québec. Moins d'apiculteurs. Le nombre d'apiculteurs exploitant au moins 6 colonies en production a chuté de 9,5% entre 2021 et 2022 au Québec, passant de 547 à 495. Cette situation s'explique par une mortalité hivernale exceptionnelle des abeilles. L'hiver 2021-2022, ça a été un désastre, explique Pierre Giovenazzo, professeur de sciences apicoles à l'Université Laval. Il y a eu au Canada 45,5% de pertes et au Québec, on a perdu 48% des colonies. Et ça, c'est énorme. À titre comparatif, la mortalité a été de 16,3% après l'hiver 2022-2023, une situation un peu plus proche de la normale. Un parasite ravageur. Partout dans le monde, les apiculteurs se plaignent de voir leurs colonies d'abeilles s'effondrer. Plusieurs causes sont montrées du doigt, comme les changements climatiques et l'usage de pesticides. Mais c'est Varroa destructor, une espèce d'acarien parasite qui s'est introduite au Québec dans les années 1990, qui est avant tout responsable des pertes hivernales dans la province en 2022. C'est très difficile à contrôler, résume Pierre Giovenazzo. C'est un parasite qui fait du dommage aux bébés abeilles et à tous les niveaux de la ruche. Reconstruire son cheptel. Pour reconstruire leur cheptel, les apiculteurs doivent diviser les ruches les plus fortes et leur trouver de nouvelles reines. Souvent, elles sont importées par avion. 50% de ruches qui sont mortes, ça veut dire que sur les quelques 65 000 ou 70 000 ruches qu'il y avait, on est retombé à 35 000. Pendant un été, les apiculteurs ont travaillé fort pour reconstituer le cheptel, explique le président des apiculteurs et apicultrices du Québec, Raphaël Vaché. En 2021, il y avait 74 979 colonies en exploitation au Québec. Grâce à leurs efforts, les apiculteurs ont pu remonter la pente, en partie, en finissant l'année 2022 avec 57 340 colonies. Production de miel en baisse. La production de miel a baissé de 34,4% entre 2021 et 2022. La production totale s'est établie en 2022 à environ 1483 tonnes métriques par rapport à 2260 tonnes en 2021. Le rendement par colonie a aussi baissé de 1,7 kg durant cette période. Quand les apiculteurs ont perdu la moitié de leurs ruches, et il y en a qui ont perdu plus que ça, il faut qu'ils se refassent, qu'ils multiplient leurs colonies. Donc, ils prennent des colonies fortes et ils en produisent deux ou trois petites. Mais ça, ce sont des colonies qui ne produisent pas beaucoup, explique Pierre Giovenazzo. Pollinisation. Les insectes pollinisateurs sont nécessaires pour produire 40 % de notre assiette. Au Québec, les abeilles sont particulièrement importantes pour polliniser les bleuets et les canneberges. Avec des pertes de 50 %, il y a des effets collatéraux pervers. En 2022, on a manqué de ruches pour la pollinisation, déplore M. Giovinazzo. Le nombre de ruches louées est passé de 59 074 à 43 119. Il y en a qui ont jeté l'éponge, ça c'est sûr, conclut M. Vacher, qui regrette l'absence d'aide gouvernementale. Combien exactement? Je ne sais pas. On va plus s'en rendre compte quand on va voir les statistiques de 2023. C'était « La production de miel d'ici en chute libre », un texte de Daphné Cameron, paru le 1er février 2024 dans la presse.
À la recherche d'une famille d'accueil pour Gabriel, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 février 2024 dans Le Devoir. À l'âge de 3 ans, Gabriel, prénom fictif, ne dormait pas. Ni la nuit, ni le jour, il s'est épuisé à un point tel qu'il a dû être hospitalisé. Il s'est retrouvé dans un centre de réadaptation pour enfants ayant de graves problèmes d'attachement. Une maison pour les grands brûlés affectifs, où l'on tente de cicatriser des plaies vives. Depuis, il va mieux. Le garçon de 4 ans fait ses nuits et se rendort même seul lors des veilles nocturnes. Gabriel est un enfant sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, dont il faut protéger l'identité. Le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal lui cherche une famille d'accueil qui pourrait l'adopter. Malgré des recherches un peu partout au Québec, l'établissement de santé ne trouve personne. Le garçon doit donc demeurer dans un centre de réadaptation, un endroit qui ne lui convient plus. Ça fait 9 mois qu'on sent l'urgence de le déplacer dans un milieu de vie avec des donneurs de soins bienveillants, dit sa psychoéducatrice au centre, rencontrée la semaine dernière. Au CIUS centre-sud de l'île de Montréal, 18 enfants sont en attente, comme Gabriel, d'un jumelage avec une famille en vue d'une éventuelle adoption. Parmi eux, 11 sont âgés de plus de 24 mois. Dès qu'ils dépassent les 2 ans, on a de la misère à les jumeler, se désole José Lemieux, chef de service de l'adoption pour le volet national et international au CIUS. Si en plus l'enfant a des diagnostics ou des difficultés, on peut chercher longtemps. Le CIUS compte 57 familles d'accueil intéressées par une adoption. Mais les postulants qu'on a, ils veulent des enfants plus jeunes ou des enfants qui n'ont pas nécessairement de diagnostic, explique José Lemieux. Il rêve d'un bébé tout rose. Gabriel est un beau petit brunet aux traits fins et aux yeux doux. Mais il n'est pas le bébé rose rêvé. Le garçon est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, TSA, modéré à sévère. Il a vécu dans 8 milieux, incluant le centre de réadaptation, depuis qu'il a été retiré à ses parents à l'âge de 8 mois. Selon José Lemieux, il est venu à bout de plusieurs familles d'accueil, habituées, en raison de ses fortes réactions, de ses difficultés d'adaptation et de ses problèmes de sommeil. C'est un enfant qui avait des carences affectives vraiment importantes, indique-t-elle. La DPJ ignore ce que le poupon a subi durant ses premiers mois de vie. Il n'aurait pas été victime de violence, mais ses jeunes parents consommaient de l'alcool et du cannabis et ne s'entendaient vraiment pas, rapporte José Lemieux. Gabriel a pu sentir les gros conflits entre les parents. Il n'a plus de contact avec eux. La DPJ du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal affirme faire face depuis plusieurs années à une baisse alarmante du nombre de familles d'accueil régulières qui hébergent temporairement ou à long terme des enfants retirés de leur milieu de vie. Elle explique cette diminution, entre autres, par les départs à la retraite de personnes accueillant les enfants. Le CIUS souhaite recruter une 50aine de familles d'accueil régulières afin de pouvoir offrir le milieu qui convient le mieux à chaque enfant. Actuellement, dans notre CIUS, il y a 241 familles d'accueil régulières qui hébergent près de 600 enfants, indique son porte-parole, Jean-Nicolas Aubé. Le taux d'occupation dans ces familles dépasse les 90% et ça limite grandement notre capacité à faire des jumelages enfants et familles optimaux. L'équipe du centre de réadaptation est parvenue à apaiser Gabriel. L'enfant a fait des bonds de géant depuis qu'il y a été accueilli il y a un an et demi. À son arrivée, on évaluait son âge développemental à 8 ou 9 mois, donc comme un petit bébé, et il allait avoir 3 ans, dit sa psychoéducatrice. À ce jour, on évalue à peu près son développement à du 24 mois, qui tend sur certaines compétences à 36 mois. Il va avoir 4 ans et demi bientôt. Le garçon qu'on dit non-verbal peut maintenant communiquer certains besoins avec des mots, précise-t-elle. Un exemple, biscuit, c'est très populaire, dit-elle en riant. Il aime aussi chanter Petit Papa Noël et faire du traîneau. Lors du passage du devoir, Gabriel sautait de joie, littéralement, et poussait des cris d'excitation dans le hall d'entrée pendant qu'il mettait son habit de neige pour aller jouer dehors avec une éducatrice. Dans ce centre de réadaptation, toutes les occasions sont bonnes pour offrir aux enfants des expériences relationnelles réparatrices. Un dégât, ça arrive et c'est pas grave, répond-on. Un ami qui se fâche très très fort, on calme le petit corps et on prend des respirations. Là, l'enfant se dit « Ah, l'adulte ne crie pas après l'ami. Il l'aide », explique la psychoéducatrice. Peu à peu, le tout petit retrouve la confiance qu'il avait perdue envers les adultes. « On n'enlève pas son sac à dos très lourd », poursuit-elle. « On n'efface pas leurs expériences traumatiques, mais on leur fournit des expériences positives et ils se disent « ça se peut ». Gabriel a tissé des liens privilégiés avec certaines éducatrices. Il se tourne vers elles lorsqu'il se fait mal, par exemple, ou qu'il veut être bercé. Il est capable de choisir ses adultes, ce qui est très positif, dit la chef de service du centre, et c'est pour ça qu'on cherche une famille pour que ce soit ses adultes à lui, ses parents, quoi. Pas question, toutefois, de faire de fausses promesses à la famille qui le prendra sous son aile. Le centre de réadaptation et le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal ignorent quels seront les progrès de Gabriel dans le futur. Chose certaine, le garçon mérite de grandir dans une famille d'accueil aimante, tout comme les 18 autres enfants en attente d'un jumelage. Il faut donner beaucoup pour prendre soin de Gabriel, mais on reçoit aussi énormément dans toutes ces petites avancées, dans les sourires qu'il nous fait, les câlins, dit sa psychoéducatrice, le regard brillant. Il nous met des étincelles dans les yeux. C'était « À la recherche d'une famille d'accueil pour Gabriel », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 février 2024 dans Le Devoir.
Pratiquer l'humilité intellectuelle, un texte de François Cardinal, paru le 28 janvier 2024 dans La Presse. Le métier, les médias, la salle de rédaction de La Presse et vous. Quand on parle de polarisation, on pense tout de suite à la distance qui se crée entre des positions opposées. On pense à des opinions qui s'éloignent, qui se radicalisent, qui empêchent tout débat. C'est exactement ce qui se passe depuis quelques années, on le voit bien. Les positions sont de moins en moins grises, elles sont noires ou elles sont blanches, particulièrement sur les réseaux sociaux où on s'envoie promener à tweet « Que veux-tu ?» Mais il y a plus pernicieux encore avec ce clivage ambiant, notre difficulté croissante ne serait-ce qu'à tendre l'oreille à la position contraire à la nôtre. C'est une chose d'être en désaccord avec son prochain. La divergence de point de vue est saine et normale, c'est même par le choc des idées que jaillit la lumière. De tout temps, on a débattu, on a argumenté, on s'est obstiné et grand bien nous en a fait. On a le droit à nos opinions, à nos convictions et même à la fermeté de nos positions, pourvu, cela dit, qu'on soit capable d'accueillir et d'entendre la position de notre vis-à-vis pour l'évaluer, l'analyser, la juger à son mérite, voire pour la démonter. et c'est ce qui semble le plus manquer au débat public ces temps-ci, l'humilité intellectuelle. Dans son tout récent livre « Les déchirures », l'essayiste Alex Gagnon démontre de belle façon le lien qui existe entre cette crispation des opinions et le sursaut identitaire qu'on observe un peu partout. Gagnon fait valoir que nous sommes piégés, en quelque sorte, par nos identités idéologiques. Je pense à gauche, donc je pense ceci de tel débat. Point. Sans plus de réflexion sur l'enjeu, la pertinence des positions, la force des arguments des uns et des autres. C'est ainsi, note Gagnon, que la polémique est souvent beaucoup moins un dialogue ou un débat qu'un exercice de classement par lequel on classe les autres en se classant soi-même. Un exemple récent. Si on est de gauche et qu'on a une sensibilité environnementale, on a de fortes chances d'être contre l'usine de Northvolt, car les écolos s'y opposent. Et si on est de droite, on risque d'être pour la construction. Et on évacue, d'un côté comme de l'autre, toutes les nuances de vert de ce débat très contemporain qui va de la protection des milieux naturels au nécessaire virage électrique. Nous adoptons ainsi des postures liées au camp auquel nous nous identifions, nous nous enfermons dans notre famille de pensée, sans oser remettre en question nos positions et surtout sans vouloir donner raison à ceux qui voient les choses différemment. Aux États-Unis, on parle de tribalisme. En France, d'archipelisation d'une société divisée en îlots ou encore de Netflixation de la vie des idées avec des opinions à la demande dans des créneaux de sens qui ne communiquent plus entre eux. Différentes expressions qui mènent à un constat, on s'éloigne, on évacue les arguments contraires, on cesse d'accorder le bénéfice du doute à celui qui pense autrement. Bref, on ne prend même plus la peine d'écouter ce que l'autre a à dire. Je vous en glisse un mot en ce début d'année, car je sens poindre une volonté croissante de renouer avec le dialogue. Je note même une multiplication des appels à plus d'ouverture et d'humilité dans le débat, sur la place publique comme dans la sphère privée, avec son prochain, avec ceux qui s'obstinent, avec ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est ce que je lis dans l'essai d'Alex Gagnon, par exemple, de même que dans « Éloge du recul » de David Crête et dans « Le courage de la nuance » de Jean Birnbaum. C'est ce que je lisais récemment sous la plume de Mario Girard et sous celle du professeur Frédéric Morneau-Guérin dans Le Devoir. C'est aussi la volonté, à la presse, où on mise plus que jamais sur le dialogue et le pluralisme d'idées, en valorisant les échanges respectueux entre ceux qui pensent différemment, en présentant l'éventail de points de vue qui s'expriment sur la place publique, en vous permettant de réagir à nos publications. On publie d'ailleurs tout autant les collaborations et lettres ouvertes qui appuient les textes d'opinion du journal que celles qui s'y opposent dans cet esprit d'écoute du point de vue contraire. Même les positions qui nous attaquent d'ailleurs. Pensez à Boucard Diouf, qui nous a critiqués pour avoir accordé trop d'importance au fils de Jean Charest, ou à Maxime Pedneau-Jobin, qui nous estime incapable de prendre la critique. Parenthèse, dans un texte que nous publions sur nos propres plateformes. Fin de parenthèse. L'objectif est de susciter la réflexion, une réflexion qui peut seulement se faire si nous revenons collectivement à la notion d'échange et de dialogue, ce qui nous forcerait à nous arrêter, à écouter ceux qui ne pensent pas comme nous, à soupeser, à nous faire une tête, et parfois à nous rendre compte que nous sommes d'accord avec une personne sur un sujet, mais pas sur l'autre, ce qui nécessite de l'écoute, de l'ouverture et de l'humilité. Précisément ce que je nous souhaite collectivement en 2024. Et je profite de ces derniers jours de janvier pour vous souhaiter à vous, chers lecteurs, une bonne année sous le signe de la discussion, de la raison et de la réflexion. C'était « Pratiquer l'humilité intellectuelle », un texte de François Cardinal, paru le 28 janvier 2024 dans La Presse.
Plus de survivants, plus de patients à soigner. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 11 février 2024 dans La Presse. Devant la diminution des taux de mortalité liés au cancer, les professionnels de la santé font face à une nouvelle réalité. L'augmentation constante du nombre de patients ayant besoin de soins et d'un suivi. Puisqu'on traite mieux les patients, on a beaucoup de survivants du cancer. On a aussi des patients qui sont sous traitement beaucoup plus longtemps parce que les médicaments fonctionnent, observe le Dr Tarek Ijal, directeur de la division de radio-oncologie au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM. Quand je vois des gens à mon bureau qui seraient morts il y a 3 ans, je suis toujours épaté et ébloui. Je suis fasciné par ce que la science a pu faire, lance le Dr Normand Blais, hématologue et oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM. Mais cette augmentation du nombre de patients ayant besoin de soins met à l'épreuve un système de santé déjà au maximum de sa capacité. On est rendu tellement meilleur pour traiter certains cancers que nos capacités de soigner les patients sont débordées, constate le Dr Normand Blais. Par exemple, environ 5 % des cas de cancer du poumon que je traitais vivaient 5 ans. Maintenant, on est rendu à 30 %. C'est 6 fois plus de patients que je dois voir tous les 3 mois pendant des années, illustre le spécialiste. L'effet se fait sentir sur les patients. Nos patients attendent de plus en plus pour passer des examens parce qu'il n'y a plus de place, dit le Dr Blais. Ça prend plus de docteurs, d'infirmières, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de tout le personnel qui s'occupe des patients à l'hôpital. Les médecins de famille en renfort. Pour désengorger les hôpitaux, les oncologues tentent d'orienter les patients en rémission vers les médecins de famille afin qu'ils puissent poursuivre leur suivi en dehors des grands centres de cancérologie. Le CUSUM a récemment mis sur pied un projet en ce sens. On développe des outils et des rapports pour que les médecins de famille puissent faire les suivis adéquats auprès des patients, indique le Dr Ijal. La pénurie de médecins de famille rend la situation plus difficile, souligne le médecin. Il garde toutefois espoir. Dans le contexte où nos patients vivent plus longtemps et ont des taux de survie améliorés à la suite de traitements contre le cancer, on souhaite les voir retourner chez leur médecin de famille, espère le Dr Tarek Ijal. Des patients qui vieillissent. Chez les enfants, un défi similaire se dessine. Le phénomène qui est nouveau, c'est que nos patients vivent beaucoup plus vieux, dit la Dr Sonia Cello du CHU Sainte-Justine. Les professionnels doivent donc s'assurer de fournir des suivis à long terme à leurs patients, parfois pendant des décennies. Une bonne partie de nos enfants vont garder des séquelles qui vont varier de légères à plus importantes, note-t-elle. Dans leur quête pour offrir les meilleurs soins, les médecins n'hésitent pas à solliciter des conseils auprès des survivants du cancer des dernières décennies. Certains de ces jeunes, aujourd'hui dans la trentaine ou la quarantaine, apportent leur expérience et leur vision sur les effets secondaires du cancer et sur la manière d'aborder la survie après le cancer, dit la Dr Cello. C'était « Plus de survivants, plus de patients à soigner », un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 11 février 2024 dans La Presse.